Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Je prends la discussion en cours, cette question qui est effectivement posée beaucoup, qu'est-ce que tu fais pour essayer de mesurer un peu la position sociale d'une personne, notamment en Europe, quand on rencontre quelqu'un dans un bar ou un café. Une autre question qu'on me posait beaucoup quand je vivais au Laos, c'est « moine beau ». Première question, c'est « est-ce que tu t'amuses ?» Première question, c'est « on n'en a rien à foutre de qui tu es, de ce que tu fais, de si tu es marié ou pas, c'est « est-ce que tu t'amuses ?» Moine beau. Donc on est dans un petit jardin, là, dans un monastère, à côté du monastère de Chechen, dans la Chechen Guest House, avec moi, Marc, qu'on va rencontrer dans ce micro. Marc, est-ce que tu t'amuses ?
Sans arrêt, et depuis longtemps.
Alors on va s'amuser ensemble, cette émission s'appelle Regarde ailleurs, l'idée c'est vraiment d'élargir sa vision sur le monde, sa regard sur soi à travers des rencontres, à travers des parcours d'expérience, donc l'idée c'est vraiment de te rencontrer. Marc, j'ai cru comprendre que tu as plusieurs vies, notamment en Inde, mais avant de parler de tes vies indiennes, on va peut-être revenir vraiment il y a quelques années de ça, quand tu es encore en France et quand tu te dis « Tiens, je vais peut-être aller voir ce qui se passe au-delà de mes frontières. » Est-ce que ça a été directement l'Inde ou est-ce qu'il y a eu d'autres voyages avant de te retrouver dans Incredible India ?
Moi, j'ai été un élève très cancre parce que j'étais absolument peu intéressé, mais vraiment pas intéressé du tout par l'école. J'avais l'impression de perdre mon temps. Il se trouve qu'à une certaine période de ma vie, j'ai fait de la voile. Et j'étais assez bon, puisque j'ai été plusieurs fois champion de France il y a très très longtemps. Et un jour, je suis tombé sur les écrits d'un homme qui s'appelait Bernard Moitessier. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Qui était un poète navigateur sublime, et ça a complètement changé ma vie. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et donc, à 17 ans, j'ai commencé à gagner un peu de l'argent et j'ai commencé à construire un bateau. Et quand ce bateau était fini, je suis parti en Inde avec ce bateau, à travers la Méditerranée, la Mer Rouge et tous ces pays-là.
Donc tu as auto-construit ton bateau, oui. Et tu es parti de France jusqu'en Inde comme premier voyage.
Ouais. Sans moteur, à la voile. Et j'ai coulé le long des côtes de l'Inde le jour de Noël 1983.
T'as coulé, ça veut dire quoi ?
Couler le long des côtes de l'Inde. J'ai été récupéré par des pêcheurs et puis qui m'ont débarqué en Inde. Et puis j'étais venu en Inde pour voir ma sœur qui s'était mariée avec un Indien. Et j'avais donc navigué du nord au sud, j'étais aux Maldives, rentré en Inde. Et sur mon deuxième voyage des Maldives à l'Inde, j'ai coulé le long des côtes de l'Inde le jour de Noël 1983.
Pourquoi ? Comment est-ce qu'on coule un bateau ?
Ça c'est de la technicité, mais le fait est que je me suis retrouvé en Inde avec, je crois, $20 dans la poche. Et puis ça a été le début d'une aventure assez extraordinaire. Et puis j'ai rencontré des gens qui prenaient des cours du yoga à Goa, qui m'ont invité à les joindre. Donc j'ai commencé le yoga juste après ça, et puis c'est devenu quelque chose que je pratique depuis maintenant presque 40 ans.
Oui, donc le voyage a commencé très jeune pour toi, tu disais, tu dans la vingtaine.
J'ai voyagé, je crois que je vais avoir 17 ans, quelque chose comme ça.
Et l'Inde, donc c'était pas vraiment un hasard, c'était vraiment parce que tu avais un contact, hein, ta sœur qui était ici.
Ouais. De fil en aiguille, je suis tombé vraiment amoureux de la culture, et puis... dans les années 80, pour gagner ma vie, j'ai fait quelques convoyages. Et puis après ça, je me suis mis à faire des bijoux. Et puis après, j'ai commencé à faire de la peinture avec des miniaturistes de Jaipur. Et j'ai fait ça pendant pas mal d'années.
Mais qu'est-ce qui fait que tu as choisi de rester en Inde ? Parce que tu aurais très bien pu. Ou est-ce que tu savais en partant de France que tu allais ne plus revenir ?
La culture française, quand j'étais jeune, me gonflait totalement. Je me disais que... Toi, le 8h, 5h, ça n'allait pas marcher pour moi. Toi. Donc, Et j'avais même, je peux dire, pendant longtemps, une certaine répugnance même à la culture française. Je me sentais que c'était pas mon truc. Donc, en fait, à un point même où si j'entendais parler français sur un trottoir, je changeais de trottoir, tu vois. Maintenant, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais c'était vraiment assez fort comme truc. Maintenant, je me suis guéri, mais ça a duré un certain temps comme ça. Et puis, j'ai rencontré une femme américaine dans les montagnes de l'Himalaya. Nous nous sommes mariés, on est partis en Australie, et puis elle avait une histoire assez incroyable avec un maître qu'elle avait rencontré à Sri Lanka, dont les enseignements à l'époque n'avaient vraiment très peu de sens, parce qu'en fait l'enseignement principal c'était en mot tamoul, c'est Summairu, qui veut dire just be, that's it. Alors, à l'époque je me disais just be, ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, en fait, de fil en aiguille, et puis de livre en livre, et de rencontre en rencontre, les choses ont commencé à se mettre en place. Puis en fait, depuis longtemps, la question de qui sommes-nous vraiment, en fait, c'est une question qui m'a hanté depuis même assez jeune, où je me disais, mais est-ce que nous sommes un résultat génétique, ou astrologique, ou religieux, ou enfin toutes sortes de questions comme ça. C'est vrai que c'est venu assez tôt, ce genre de questions.
Alors je te la pose la question, avec tout ce cheminement que tu as eu toutes ces années, qui es-tu? Qui est Marc?
Un fantôme. Non, c'est tout. Il n'y a pas de réponse à cette question, en fait. Si quelqu'un, qui que ce soit qui donne une réponse à cette question, il ne peut que mentir.
On a bien quand même une identité, on représente quand même quelque chose. On peut quand même se définir. Comment tu te définirais aujourd'hui avec ton expérience, ton parcours de vie?
Une feuille morte qui passe et qui tombe dans l'arbre et qui voyage, c'est tout. Rien d'autre, vraiment, que d'autre que ça.
De passage.
On est juste de passage. Enfin, semble être de passage.
On va revenir à cette histoire de l'Inde, parce que j'ai bien compris, tu as passé plus de temps en Inde qu'en Europe.
Ah oui, je suis en Inde depuis 42 ans. Ah oui, je suis arrivé en Inde. Ah non, je suis arrivé en Inde en 82, donc ça fait 40 ans.
Et tu as ?
65 ans.
Ah oui, donc tu as passé la plus grande partie de ta vie en dehors de l'Europe, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on se construit dans une culture aussi différente ? Parce que l'Inde, c'est quelque chose de quand même très particulier, ça peut retourner beaucoup de voyageurs.
Je pense qu'un peu c'est la question essentielle du voyage, à savoir que si on se remet pas en question, moi je vois pourquoi, quel est l'intérêt de voyager en fait. Et je sais que maintenant tous les gens voyagent pour toutes sortes de raisons différentes, et bien évidemment. Puis j'ai aussi voyagé quand même essentiellement à une époque où il n'y avait aucun guide d'aucune sorte, hein, donc c'était vraiment l'aventure. J'ai jamais utilisé un guide de ma vie. Pour moi, l'intérêt du voyage, justement, c'est d'être de ne pas savoir ni où aller ou ce que tu allais faire, ou toi, de planifier son voyage. Pour moi, c'est toujours paru un peu, enfin, c'est juste pas mon truc, quoi. J'ai toujours aimé voyager. Je tourne là et hop, je pars là et puis on verra où ça va, quoi. J'ai toujours aimé les surprises comme ça. Mais voilà.
Il y a ce proverbe, alors je ne sais plus si tu le connais, l'histoire de la pirogue. Tu la connais, l'histoire de la pirogue ? Et que pour pouvoir voyager, la pirogue est faite avec un arbre. Donc c'est important aussi d'avoir des racines quelque part. Cette notion d'ancrage culturel avant de prendre le large. Comment est-ce que toi tu as, avec une expérience aussi grande de l'Inde, arrivé à t'insérer dans une culture si différente de la nôtre ?
Parce que ça m'a passionné. C'est la passion, moi. Cette culture, elle m'a tout de suite passionné. Passionné aussi dans le sens où j'ai une tendance peut-être à être assez sérieux, donc je fais en général pas les choses à moitié, donc je me suis immergé dans des bouquins pour essayer de comprendre où j'étais, mais en fait c'est juste avec le temps, et en particulier quand j'ai commencé à parler la langue, que les choses les portes sont vraiment ouvertes, quoi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ok, Quel a été ton fil rouge pendant toutes ces années en Inde? Tu dis que tu es sérieux, donc tu parlais à un moment donné de peinture, je crois, ou d'écriture. Donc voilà, comment est-ce que tu occupais ton temps? Qu'est-ce qui, pour toi, te faisait vibrer? Quel a été pour toi, dans quel domaine tu as voulu mettre ton temps et ton énergie?
Le truc principal, c'était le yoga. Moi, j'ai pratiqué le yoga tous les jours, des heures par jour, pendant 30 ans. Donc c'était un peu le fil conducteur, ouais. Jusqu'à réaliser maintenant, en fait, c'est complètement débile, quoi, que c'est pas que l'idée de mettre ses deux jambes derrière le cou, ça va pas vraiment t'aider à savoir qui tu es, en fait. Donc les choses ont un peu changé, quoi. Ce qui est pas mal, en fait, c'est une évolution. Je vois des gens qui pratiquent depuis 40 ans et qui continuent toujours à pratiquer avec des acrobaties et des choses les plus insensées, mais finalement, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a même d'ailleurs dans le texte considéré comme le texte phare de la tradition yogique, qui s'appelle Yoga Sutra de Patanjali, qui dit que les bénéfices de la pratique du yoga peuvent être en fait une hindrance, peuvent être un obstacle au yoga. À savoir que quand on devient trop amoureux de son corps, on ne fait que renforcer l'idée que nous devrions réaliser que nous ne sommes pas le corps de toute façon. Donc toi, tomber de plus en plus amoureux de soi-même et de ses capacités physiques, c'est en fait un obstacle important.
Donc là, on va aborder un sujet très important, ou en tout cas, le yoga. Le yoga, c'est quelque chose de devenu très tendance en Europe. Alors, on compte plus le nombre de studios yoga, de shala yoga, le nombre de magazines autour de yoga. Donc on va profiter peut-être de ton expérience, de ton expertise, le yoga. Qu'est-ce que c'est? Comment le définir? Parce que là, on parle des postures, mais je pense que c'est bien plus que ça.
Déjà, la tradition yogique, elle s'appelle en fait le Raja Yoga, donc c'est la voie royale. Et la voie royale, elle se définit comme étant une aventure, comme un arbre à 8 branches, donc 8 successions de choses à pratiquer pour arriver à l'illumination. En France, partout dans le monde, le yoga qui est devenu tellement, disons, populaire, les gens semblent concernés que par une de ces branches qui sont ce qu'on appelle les asanas, donc les poses. Et qu'en fait, ça fait partie, comme beaucoup de trucs que les occidentaux ratent complètement, c'est qu'en fait, la raison seule de la pratique des poses, c'est d'apprendre à se poser sur ses fesses, à savoir d'être assis. Il n'y a pas d'autre raison traditionnellement de pratiquer le yoga. C'est en fait de s'apprendre à s'asseoir avec le dos à peu près droit pour pouvoir méditer. En fait, c'est dans les textes les plus anciens du yoga, en fait, il n'y a que des poses assises qui ne sont décrites. Il n'y a aucune pose comme on voit maintenant avec toutes sortes de trucs. Ça, ce sont en fait des évolutions assez modernes de la pratique du yoga, mais dans les textes vraiment traditionnels, originaux, en fait, la seule raison de pratiquer des poses, c'est d'apprendre à s'asseoir.
Et dans ta pratique, à toi, est-ce que tu t'es vu évoluer? Est-ce que tu pratiques le yoga de la même manière aujourd'hui qu'il y a 40 ans?
Mais non, pas du tout. Mais maintenant, je ne fais plus que ça, je ne fais plus que m'asseoir.
Tu savais, tu connaissais, dans les années 80, 82, quand tu arrivais ici, l'existence du yoga, ou c'est quelque chose dont on parlait déjà?
Pas du tout. Pas du tout, mais il y a quand même un truc étrange. Quand j'ai voyagé sur mon bateau, je connaissais rien de l'Inde. La seule chose que je connaissais, c'était un disque de Parvin Sultana que ma frangine, qui avait été en Inde très tôt dans sa vie, avait ramené, et ça m'avait fasciné. C'était la musique classique hindoustani, et j'aimais beaucoup la voix de cette femme, elle avait une voix insensée. C'est la seule chose que je connaissais de l'Inde, mais je n'écrivais pas vraiment un journal. Quand j'avais un livre de bord, parce que ça c'est obligatoire, mais c'était pas vraiment des trucs très personnels. Mais des années plus tard, j'ai retrouvé des inserts dans mon carnet de bord qui étaient en fait des questions concernant les yogis indiens. Et alors, quand j'ai découvert ça c'était vraiment une grande, grande surprise, parce que alors, je n'avais vraiment pas la moindre mémoire d'avoir jamais penser ça, ni même encore moins l'avoir écrite. Donc en fait, il y avait des graines plantées quelque part, j'imagine.
Mais tu penses, alors ma question est naïve, mais si ta sœur était partie vivre à Cuba, tu serais partie à Cuba et tu serais jamais venue en Inde ?
Non, parce que moi, mon voyage en bateau, en fait, ma destination en bateau, c'était l'Indonésie, moi. C'était pas l'Inde du tout. En fait, c'est quand je suis arrivé à Djibouti en 1981 ou 2, je me souviens plus, ouais, 2 peut-être, que j'ai appelé ma mère qui m'a dit « Ah, ta sœur vient de se marier avec un prince indien. » Je dis « Ah bon ?» Et donc, je dis « Bah, je vais aller faire un tour en Inde. » Et puis donc, au lieu de partir vers Sri Lanka, je suis parti vers Karachi, je suis allé au Pakistan, et du Pakistan, je suis rentré en Inde.
Et pendant cette aventure indienne, donc, tu disais hors micro que tu t'es acheté une voiture, et donc pendant 7 ans, tu as tourné dans tout le pays.
En 2000, ouais, je me suis acheté une Jeep, c'est une Jeep Kaiser, une Jeep américaine qui avait envahi l'Inde. En 1970, il y avait la guerre entre le Pakistan et l'Inde, et les États-Unis avaient envoyé toutes sortes de Jeeps, enfin une Jeep américaine, la marque c'était Kaiser. Et j'en avais trouvé une, enfin, elle avait 40 ans la Jeep, et donc j'ai changé le moteur, j'ai mis des freins à disque et tout ça, puis je me suis promené, ouais, pratiquement sans interruption, du nord au sud, du Cachemire au Kerala et de l'est à l'ouest, et dans tous les sens pendant, ouais, pendant 7 ans.
Alors comment est-ce que tu définirais l'Inde ? Parce que l'Inde est connue comme un pays, mais quand on commence à y barouder un peu, on se rend compte qu'il y a une diversité complètement incroyable et qu'il y a des centaines de langues différentes. Donc quelle est toi, qu'est-ce que c'est que l'Inde ?
L'Inde, qu'est-ce que c'est ? J'ai l'impression que je comprends un petit peu quelques trucs, mais c'est tellement immense et varié que aussi ça dépend des centres d'intérêt qu'on peut avoir, parce que l'Inde c'est un paradis pour les amateurs de textile, c'est un paradis pour les amateurs de médecine traditionnelle, enfin il y a tellement de connaissances, enfin l'Inde pour moi c'est pas un pays, c'est des multitudes de pays, même gastronomiquement. Enfin, quand tu vas en France, on dit tu vas dans un resto indien, mais ça ne veut rien dire, parce que entre la bouffe du Cachemire, de l'Assam et du Kerala, ça n'a rien à voir. Tu vois. Mais c'est indéfinissable l'Inde. Pour moi, s'il y a peut-être une formule qui peut décrire l'Inde, pour moi, c'est que l'Inde est la preuve que le chaos, ça marche.
L'Inde est la preuve que le chaos fonctionne. Ça, c'est pas mal.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Et pour avoir, donc, pour t'être baladé comme ça dans différentes régions, se pose sûrement la question, à un moment ou à un autre, d'avoir envie de t'établir quelque part. Comment est-ce que tu as choisi, qu'est-ce qui fait que tu es resté plus longtemps? Je crois que c'est au Rajasthan, tu disais à Jaipur.
À Jaipur, parce que j'ai pas mal travaillé avec des miniaturistes qui était à Jaipur. Et puis après, j'ai passé aussi 8 ans dans le Tamil Nadu, en lisière de forêt, dans une toute petite maison, pour explorer la solitude et la méditation un peu plus en profondeur. Et puis après ça, oui, j'ai passé pas mal de temps à faire du trek tout seul dans l'Himalaya, à droite, à gauche. J'aime bien voyager tout seul, donc j'ai fait pas mal.
Même avec la voiture, quand tu voyageais en Inde, tu partais seul ?
Ouais. Essentiellement, ouais. Ouais. Parce que j'aime ça.
Il y a quand même eu, tu disais, un mariage. Le tien.
Ah ouais, c'était une Américaine, une vieille hippie qui était arrivée en Inde. Elle avait 10 ans de plus que moi, s'appelait Rose. Et elle était arrivée en Inde dans les années 70. Donc elle avait fait la route, à l'époque il y avait le fameux London Magic Bus, donc elle avait fait la route entre Goa et Londres, je ne sais pas combien de fois, à l'époque où en plus non seulement les gens faisaient cette route-là, mais ils faisaient cette route-là complètement stone, du matin au soir, avec les drogues les plus insensées qui flottaient à l'époque, à travers l'Afghanistan, enfin à travers, oui, c'était si j'ai peut-être un regret, c'est de ne pas avoir fait ça au moins une fois dans ma vie, faire le Magic Bus de Londres à Goa, c'est sûr que ça devait être un truc insensé.
Ça s'est arrêté quand, cette histoire du Magic Bus ? Parce que nous, on est une génération qui est arrivée après la tienne, donc on connaît ça, c'est une légende pour moi, mais c'est quoi ?
Je crois que ça a peut-être dû s'arrêter fin des années 70, un truc comme ça. Ça c'est à vérifier, hein, je suis pas trop sûr. Mais, c'était insensé. En plus, le truc aussi que je regrette, c'est enfin, regrette, c'est l'Afghanistan, parce que tous les gens que je connais qui ont voyagé en Afghanistan disaient tous que c'était le summum du voyage, quoi. C'était les gens d'une dignité, d'une hospitalité insensée, quoi. Et aussi peut-être le hashish, le meilleur du monde aussi.
Ok, t'en es où toi avec les drogues? T'en as testé ici en Inde?
Si j'ai goûté des trucs, plein. Je peux pas vivre en Inde sans goûter. C'est comme aller en Inde sans goûter la cuisine indienne. Tu peux pas voyager sans goûter les délices locaux.
Alors c'est quoi les délices locaux? Parle-nous, emmène-nous dans ces paradis artificiels.
L'opium dans le Rajasthan, mais ça fait partie de la culture dans certains groupes tribaux de l'ouest du Rajasthan. Quand tu arrives dans la maison de ils s'appellent les Bisnoi, quand tu arrives dans les maisons de ces gens-là, le maître de maison t'offre dans le creux de la main de l'opium liquide que tu bois de sa main, par exemple. Donc ça c'est cool, hein, parce qu'en fait c'est pas mal, hein. Et puis, bah, évidemment, dans les montagnes, tu goûtes divers hashishs qui peuvent être sublimes, d'ailleurs. Et puis oui, j'ai goûté pas mal de trucs comme ça.
Est-ce que c'est toujours ça? Parce que c'est vrai que j'ai l'image de l'Inde, les chemins de Kathmandu, Manali, le hashish, la marijuana, les sadhus, les shilohs. C'est quelque chose qui est toujours là aujourd'hui, en 2020, ou c'est quelque chose qui disparaît par rapport à l'Inde que tu as connue il y a 40 ans?
Non, bah, ça existe bien sûr toujours, mais maintenant c'est interdit. Donc à l'époque, à 200 mètres de la maison de mon beau-frère à Jaipur, il y avait une boutique du gouvernement où tu pouvais acheter opium, héroïne, hashish, marijuana, tout ça ouvertement dans la rue, comme ici à Katmandou, hein. C'était une autre époque.
Parle-moi de cette évolution, de ce que tu es le témoin finalement d'une évolution en Inde. 40 ans d'Inde, c'est pas rien, donc tu as vu les choses changer. Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu pourrais partager avec celui qui n'a pas connu cette Inde des années 80?
Globalement, l'évolution de l'Inde est en fait, en ce qui me concerne, une évolution négative, dans le sens où le monde occidental a réussi à faire avaler ce mensonge que le matérialisme peut conduire au bonheur. Alors que ce pays est un pays qui a essentiellement exploré justement le fait que c'est pas ça du tout, quoi. Et il est vrai que quand je vois beaucoup de jeunes, ben même hier soir, j'étais dans un petit café juste à côté ici à manger des momos, parler avec un jeune qui me disait « Oh là là, mais vous êtes de l'étranger et la vie est tellement mieux chez vous et tout ». Mais j'ai dit « Mais non, toi, enfin, je veux dire, c'est l'évolution, ben c'est comme quand on parle d'éducation. En Inde, par exemple, parler d'éducation, en fait, c'est parler de... dans nos doctrinements occidentaux, parce qu'en fait les gens pensent que être éduqué c'est parler anglais, être éduqué c'est penser comme les étrangers, et malheureusement, pour moi c'est l'évolution la plus déprimante, parce que c'est global, hein. Partout où tu vas, les gens boivent du Coca-Cola et portent des Nike, et quand on parle de perte de biodiversité, on parle en fait de perte de diversité globale. Ça, c'est un phénomène inéluctable qui est un peu triste, c'est vrai, parce qu'en fait, il y avait un monde avec beaucoup plus de couleurs et de différences, quoi. Maintenant, tout le monde boit du coca et mange des frites, quoi.
Et on parle parfois de génocide culturel aussi, où l'Occident réussit à s'imposer et à éradiquer une partie des traditions à travers l'illusion du bonheur matériel.
Mais pire que ça, c'est il a vraiment vendu ce mensonge que la matérialité est le summum de la réussite humaine, qui est un mensonge total, bien évidemment, on le voit bien chez nous. Enfin, je veux dire, si d'être riche, ça conduisait au bonheur, en Europe, tout le monde serait... ce serait un monde différent.
Alors je te pose la question, Marc, c'est quoi le bonheur?
Le bonheur, c'est simple. Le bonheur, c'est d'avoir le mental en paix.
C'est quoi avoir le mental en paix?
Ben, ne pas se réveiller avec la tempête qui sévit habituellement du moment où tu ouvres les yeux jusqu'au moment où tu les fermes, quoi. Entre les besoins et les désirs et les perceptions d'eux, et si c'était comme ça, et da da da. En fait, il existe, parce que ça je peux en parler de mon expérience personnelle, il existe des techniques développées dans ce pays depuis fort longtemps, qui s'avère être vrai, qui est que si tu respires mieux, tu penses moins. Si tu penses moins, tu es plus heureux. Pas penser moins dans le sens d'être débile, hein. On est bien d'accord, hein, mais dans le sens de ne pas être anxieux, particulièrement peureux, enfin, toi, toute cette misère humaine dont on fait l'expérience, enfin, toi, les gens ici parlent de samsara, c'est ça, hein, le samsara, c'est confondre l'irréalité de nos pensées pour une réalité solide, quoi, essentiellement.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Et peut-être encore une question qui m'interpelle. Les bouquins, mon premier bouquin que j'ai dû lire sur l'Inde, c'était le bouquin de Yogananda.
Ah oui.
Qui est assez fascinant et dans lequel il y a beaucoup de choses qui sont mystiques, qui sont incroyables, enfin des expériences paranormales dans l'Inde. Oui. Est-ce que toi tu as pu vivre au contact de grands maîtres ou assister à des phénomènes paranormaux qui sont difficiles à comprendre pour l'esprit occidental?
Ben justement, c'est ça le problème, c'est que l'esprit occidental, il veut tout comprendre, quand en fait, il n'y a rien à comprendre, ben, c'est tout. Le paranormal, ça c'est autre chose. Le paranormal, c'est simplement l'accession, en fait, à différents niveaux de conscience. Tu vois, c'est comme tu parles d'un oignon avec des couches. En fait, notre vie se déroule sur plein de niveaux différents. Toi, la tradition hindoue décrit les cinq couches de l'oignon, qui sont celles du corps énergétique, celles du mental, celles de l'intellect, et le dernier qui est celle du corps de félicité. Donc en fait, chacun, à chaque niveau de conscience, à travers ces branches particulières, on peut parler d'expériences différentes, une expérience physique, une expérience énergétique, une expérience mentale, intellectuelle, et après une expérience causale, ce qu'on appelle une expérience causale. Donc la graine de l'expérience qui est en fait la conscience. Si tu es inconscient, tu ne peux pas faire l'expérience de quoi que ce soit. Ce que nous faisons chaque nuit quand nous allons dormir, nous ne faisons pas l'expérience de quoi que ce soit dans le sommeil profond.
Marc, c'est quoi le sens de la vie ?
Le sens de la vie. Ce serait très présomptueux que je donne mon propre opinion. Le sens de la vie tel que le définit les textes classiques indiens, c'est de se trouver soi-même. De comprendre ce que nous sommes en vérité.
Qu'est-ce que tu as envie de partager ou de dire à ceux qui sont restés en France et qui aimeraient prendre la route ? Qu'est-ce que la route peut apporter aux voyageurs ?
Il y a un proverbe chinois qui dit que quand on voyage, la meilleure chose que l'on puisse ramener d'un voyage, c'est soi-même. C'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre à dire.
Donc ce serait peut-être ça le sens de la vie, c'est pas forcément chercher à s'enrichir à travers des possessions matérielles, mais c'est arriver à se trouver soi, just be.
Ah oui, non mais c'est sous, absolument. Just be, en fait, tu sais, ça c'est une chose, en fait, ça pourrait être, tout ça pourrait être en fait un grand volume. Parce que just be, c'est intellectuellement effectivement facile de dire just be, mais de comprendre vraiment ce que disent. Moi, j'ai mis 30 ans pour comprendre vraiment ce que ça voulait dire sumairo. Donc just be, c'est pas si évident que ça, quoi. C'est pas just be, ça veut dire être juste. Ce que nous sommes en réalité. Alors évidemment, après maintenant, de décrire ce que la réalité, ça c'est un autre volume aussi, tu vois ce que je veux dire. En quelques mots, il y a au cœur de nous-mêmes, c'est pas un endroit, mais il y a au cœur de nous-mêmes, on peut accéder au cœur de soi-même, qui est un endroit qui n'est pas touché par la perversité du monde et par les vicissitudes du monde. Et cet endroit-là, il existe pour tout le monde, puisqu'en fait, il est là, il est le même pour tout le monde. C'est pas que chacun a son endroit, en fait. C'est l'endroit duquel on peut se retirer du monde pour trouver la paix, en fait. C'est ça, just be, c'est ça.
Et on trouve comment, cet endroit ?
Avec beaucoup d'efforts, pour réaliser qu'en fait, il n'y a aucun effort à faire.
Marc, merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. L'émission que vous venez d'entendre s'appelle « Regarde ailleurs ». Ce podcast donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde dans le cadre de mon activité de photographe voyageur. Je pars de l'idée qu'une personne, le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime pouvoir récupérer tous ces témoignages souvent très inspirants. Belle journée à tous !